Nous lisons ce matin un des textes qui nous sont proposés dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. » Quand on relit ce texte, vous l'avez peut-être senti au moment de l'entendre à nouveau, mais on a l'impression que chaque phrase est une phrase célébrissime et que le texte les aurait toutes condensées en une quinzaine de lignes, une quinzaine de versets, une sorte de condensé de ce que Jean est capable d'écrire de plus simple et en même temps de plus éthéré, de plus aérien, de plus vaste, peut-être un peu trop pour qu'on s'y retrouve tout de suite en tout cas. On a l'impression que chaque phrase, et on peut les détailler, hein, que votre cœur ne se trouble pas, je suis le chemin, la vérité et la vie, enfin toutes ces phrases sont des grands classiques de Jésus. Et elles sont toutes collées à peu près au même endroit comme ça, on pourrait en faire des perles, les mettre sur une petite chaînette en or et s'en faire un beau collier. Mais si vous n'aimez pas les colliers, vous pouvez toujours faire un chapelet par exemple, hein, ça nous changera. Ou un boulier pour apprendre à compter. Elles sont toutes là. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est comme ça que s'ouvre ce passage si dense, si chargé et si impénétrable en même temps à la première lecture. Tout s'ouvre sur une parole qui n'est pas d'abord une explication, ni une doctrine, ni une vérité à apprendre par cœur et à répéter, mais une adresse en même temps qu'un encouragement. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus y est un petit peu pour quelque chose, cette inquiétude, puisqu'il faut se souvenir que ce texte suit celui de l'annonce de la mort prochaine de Jésus aux disciples. Une parole tournée vers l'intérieur de l'être humain. Il ne leur dit pas « n'ayez pas peur de ce qui se passe autour de vous », mais que votre cœur, dedans, que le trouble ne soit pas à l'intérieur, au cœur de vous-même, vers ce lieu fragile où s'entassent, se bousculent aussi parfois nos inquiétudes, nos espérances, nos questions. C'est là qu'il faut, non pas de l'ordre, quelque chose de bien rangé, mais quelque chose d'apaisé, de non inquiet. Le contexte, c'est donc celui d'une inquiétude profonde, parce qu'on a beau dire aux gens « ne vous inquiétez pas », si on a tout fait pour les inquiéter avant, c'est un petit peu comme dire à quelqu'un qui est agacé « mais pourquoi tu t'énerves ?» C'est le meilleur moyen de faire monter encore d'un cran sa nervosité. Le monde que les disciples est en train de vaciller. Ils l'ont appris, ça n'a pas encore eu lieu, mais ils savent que quelque chose est en train de basculer. Leur confiance, leur compréhension, leur avenir sont déjà menacés à ce moment-là. Il n'y aura plus du comme avant. C'est déjà en train de changer. Et c'est justement dans ce moment d'incertitude que retentit cette fameuse parole qui commence notre passage, que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas un déni de réalité, ce n'est pas une manière d'éteindre rapidement un incendie qu'on a allumé soi-même, ou un exemple d'autosuggestion. Le trouble est bien là, bien réel, mais il ne doit pas avoir le dernier mot. Pas la méthode Coué, donc, mais une invitation à la résistance. Vous savez que ça va venir, vous savez que votre cœur sera troublé. Résistez. Ce que Jésus propose, c'est un déplacement, passer de l'angoisse à la confiance, et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Pas en s'aveuglant, mais en s'ouvrant à une autre dimension de la réalité. Autre belle phrase, je vais les égrener, puisque c'est un collier. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si Jean est le seul à présenter parfois, pas dans ce texte-là, mais ailleurs, un Jésus capable de se confondre avec Dieu, vous vous souvenez du « moi et le Père, nous sommes un », il faut oser. Il semble ici nous suggérer une idée un peu différente, une distinction, plutôt qu'une identité ou une confusion. Avant de formuler des doctrines très affirmatives, d'ailleurs nous ferions peut-être bien de lire les textes dans leur totalité, et de les laisser parfois comme ils sont, ambigus, changeants, variables, avant de conclure trop rapidement, surtout s'ils viennent du même auteur, comme cela. L'invitation peut surprendre, elle ne demande pas une adhésion intellectuelle, une série d'énoncés auxquels il faudrait souscrire, elle appelle à une confiance relationnelle. Croire ici, c'est consentir à ne pas tout maîtriser. Qui maîtrise tout ? C'est accepter de marcher sans voir entièrement le chemin, c'est une autre affaire. Et cette confiance est immédiatement reliée à une promesse. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, celle-là aussi, nous la connaissons. L'image est simple et immense en même temps. Une maison, c'est un lieu d'accueil, de repos, c'est aussi un lieu d'appartenance, de repère, c'est chez moi, c'est mon foyer, c'est là où... par rapport au froid du dehors, je retrouve la chaleur dont j'ai besoin. C'est tout ça, une maison. Pas un espace anonyme, mais un lieu habité, structuré, avec des relations, mais aussi avec un chacun chez soi, parce que tout le monde en a besoin. Il y a de nombreuses demeures, ça suggère une pluralité, une ouverture, une hospitalité sans exclusion. Chacun, chacune peut y avoir une place. Les chambres sont de superficies différentes, elles sont peut-être décorées selon le goût de l'occupant, mais elles représentent toutes un chez-soi unique à respecter. C'est tout le contraire des cellules de prison standardisées, aménagées à l'identique, et dont la porte est équipée d'un Judas, parce qu'on n'est pas chez soi. Dans la maison du Père, vous êtes chez vous êtes libre. Il ne s'agit pas forcément de penser cet espace en termes géographiques, bien sûr. Ce langage parle d'une autre réalité, celle d'un lieu pour chacun, un espace où l'existence peut trouver sens et profondeur. C'est cela qu'il faut s'aménager, et on sait où. Ou on nous l'indique, en tout cas on nous montre du doigt. C'est le cœur, mais on ne sait pas exactement où il est. En tout cas, ce n'est pas celui qui fait circuler le sang dans nos vaisseaux, c'est autre chose. Je vais vous préparer une place. Celle-ci aussi est bien et encourageante. Les disciples en avaient besoin, nous aussi. Cette phrase peut être entendue comme une promesse d'avenir. Il parle au futur, là d'ailleurs, dans ces quelques lignes. Quand je reviendrai, quand je serai venu vous chercher, etc. Tout cela est encore à faire, encore à venir. Promesse d'avenir aussi, mais affirmation de valeur. Il y a une place pour toi, ta vie compte, elle n'est pas perdue dans l'immensité du monde, elle est reconnue, accueillie, préparée. Dans un monde où il y a beaucoup de gens qui se sentent déplacés, dans tous les sens du terme d'ailleurs, déplacés pas à leur place, mais déplacés physiquement aussi parce qu'à l'endroit où ils étaient, il n'y a plus d'avenir ou alors c'est trop dangereux d'y rester, déplacés dans tous les sens du terme, ceux qui se sentent inutiles ou invisibles, des paroles comme celle-là font partie de notre témoignage, nécessaire. Et ce témoignage garde une force étonnante. Et le texte en plus ne s'arrête pas là, à une projection simplement vers un plus tard. Il revient immédiatement à la question du chemin. Vous savez le chemin du lieu où je vais. Là encore, c'est simple, c'est précis et c'est flou en même temps. On ne sait pas où exactement. C'est pour ça que Thomas, le vérificateur en chef, il aime bien lui les choses carrées, les choses claires. Il aime bien faire la netteté sur les choses. Fidèle à son réalisme, il répond très naturellement, nous aurions peut-être fait la même chose, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? Donne-nous le point d'arrivée, nous programmerons le GPS et nous devrions y arriver. Question humaine, profondément, qui dit notre difficulté à suivre ce qui nous dépasse. Comment avancer vers un but que nous ne comprenons pas ou s'engager sans carte précise ? Il y a toutes les raisons pour rester chez soi, finalement. La réponse de Jésus est l'une des plus célèbres de l'Évangile. Alors celle-là, elle est vraiment au milieu du passage. On aurait voulu en faire le cœur du passage, on ne s'y serait pas pris autrement. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On pourrait s'arrêter sur celle-là et ne traiter que cette partie-là. Ça mérite d'être entendu, en tout cas avec attention. Ça ne dit pas « je connais le chemin, je vais vous le dire et vous vous débrouillerez ». Ou « je vous montre un chemin ». Elle dit « je suis le chemin ». C'est simple hein, comme phrase. Hein. Vous avez sujet, verbe, petit complément, point. Pas de complications. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le chemin, ce n'est pas une méthode ni un système, c'est une manière d'être. C'est peut-être ça qu'on nous montre du doigt. C'est pour ça qu'il y a du flou. Il y a l'absence d'honnêteté de tout ce qui reste à faire, de notre part, de notre côté. Une manière de vivre, de regarder, de se relier aux autres. Et ça, c'est de notre ressort. Marcher sur ce chemin, ce n'est pas suivre un itinéraire figé, trop facile. C'est entrer plutôt dans une dynamique, une orientation, s'inspirer d'une vie qui a su unir la vérité avec la compassion, la liberté avec la fidélité, l'engagement avec la confiance. Ces mots s'opposent un peu entre eux, mais il faut savoir jongler avec ces couples de mots et les tenir en équilibre comme ça. Je suis la vérité, il fallait oser quand même. Pas une vérité abstraite ou imposée, mais une vérité incarnée. Mais tout de même, sans précision comme ça, on comprend que beaucoup lui en est voulu par la suite. Une vérité qui se vit, qui se cherche, qui se partage, pas d'affirmation surplombante, et pourtant, c'est déjà suffisamment arrogant pour beaucoup. Je suis la vérité. Une vérité qui ne ferme pas, mais qui ouvre, mais on ne le découvre qu'après. Je suis la vie, peut-être pas plus modeste, hein, une vie qui ne se réduit pas à la survie ou au simple fait d'être là, mais ce qui vivifie, ce qui rend la vie ou l'espérance à d'autres, c'est ça être vivifiant. Il faut oser aussi. Hein. Une vie qui circule, qui relie, qui transforme, c'est tout de même autre chose que de se maintenir simplement sur la ligne de flottaison, la survie si vous voulez. C'est autre chose. En affirmant ces choses en apparence très prétentieuse, Jésus ne donne pas de réponse toute faite. Il se présente plutôt comme une présence à accueillir et une relation à vivre. Une fois qu'on a passé le seuil, eh bien, il reste à faire, une fois qu'on est sorti, passer par cette porte-là, tout ce qu'on avait projeté de faire, en étant peut-être un peu seul en passant le seuil, mais pas sans destination et pas sans aide. Personne ne vient au Père que par moi. La phrase a parfois été comprise comme une exclusion, un goulet d'étranglement. Il faut passer par là, sinon vous n'y aurez pas droit. Ça peut se comprendre comme ça. Ça ressemble un peu au péage de Saint-Arnoult le 1er août. Il y a du monde, ça prendra du temps. Remarquez, là, ce n'est pas sélectif, tout le monde finit par passer. Ça aurait pu être plus exclusif encore. Il y a 20 places, il y a 200 voitures, débrouillez-vous. La phrase est comprise souvent comme une exclusion, mais elle peut aussi être entendue autrement. Heureusement pour nous, d'ailleurs, ce qui conduit à Dieu, ce n'est pas une appartenance formelle, ni un savoir particulier, sinon les distinctions entre ceux qui savent et les autres, il y en a déjà assez comme ça ailleurs. Est-ce qu'on aurait besoin de celle-ci ? Probablement pas. C'est une manière d'être au monde, une manière de faire confiance. Et ça, peut-être que ça se vit, mais ça ne s'apprend pas. Et puis on y arrive parfois, même avec beaucoup d'expérience, parfois on échoue aussi, il faut revenir, recommencer. Chercher la vérité avec modestie, reconnaître modestement qu'on s'est trompé, tout ça est coûteux quand même, c'était pas facile. C'est beaucoup plus difficile que d'apprendre et d'accumuler des savoirs. Nul ne vient au Père que par moi, dans ce par moi, cette espèce de passage comme ça, qu'on n'est pas obligé de voir comme quelque chose d'étroit et d'exclusif. Ce par moi peut être compris comme à travers ce que je vous montre de Dieu. Je ne vous montre pas tout, je n'ai moi-même pas tout vu. Mais prenez déjà ce que je vous donne. Un Dieu proche alors qu'il a été lointain longtemps, ça c'est peut-être nouveau. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, mais il faudra vous y faire. Un Dieu de compassion, vous préfériez peut-être celui qui juge, je vous en propose un autre. Un Dieu qui change d'avis, qui se repent parfois de vous avoir créé et fait le ménage. Je vous rappelle un Dieu de fidélité qui fait alliance avec vous et ne lâche jamais. Et c'est à ce moment-là que Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. C'est peut-être, après l'intervention de Thomas, celui qui a le plus vite compris l'ampleur de la nouveauté qui lui est proposée et que cette nouveauté effraie. Montre-nous le Père, ça ira comme ça. Pas cette nouveauté que tu nous proposes. Demande simple, hein, directe, presque naïve, autant que nous d'ailleurs. Voir Dieu enfin et avoir une certitude et une évidence, peut-être faussement modeste, mais vraiment prétentieux. Montre-nous le Père, comme Moïse l'a vu, comme d'autres l'ont vu. Donne-nous cet accès-là, et puis ça nous suffira. Comme ce serait reposant d'avoir ça enfin une fois pour toutes. Mais la réponse de Jésus déplace encore la perspective. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est un peu sévère avec Philippe, il le tense un peu comme Jésus ailleurs dans d'autres évangiles accuse les disciples de n'avoir rien compris et d'avoir la coquille un peu épaisse. On peut vous rentrer des choses à l'intérieur, mais ce n'est décidément pas facile. Il n'y a pas d'un côté un Dieu inaccessible, Philippe, et de l'autre une réalité humaine séparée. Je te dis autre chose. Ce que je te donne à voir, c'est que le divin se laisse entrevoir dans l'humain, dans une vie donnée, la tienne, celle des autres, dans une relation vivante. C'est là que vous le verrez. Et c'est ça que j'incarne. C'est là que vous verrez le Père. Voir le Père chez Jean, ce n'est pas accéder à une vision spectaculaire. C'est reconnaître dans une vie humaine, comme la nôtre, une transparence qui fait que l'amour se voit, se comprend, s'imite et finalement s'exerce, se vit aussi. Une fidélité qui ne se dément pas. C'est dans nos vies que ça se voit, pas dans des définitions. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Jésus insiste ici sur une sorte de lien, ce qui est dit, ce qui est fait, ça s'inscrit dans une relation que j'ai déjà reçue, moi, de quelqu'un d'autre. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Autrement dit, l'action ne vient pas d'une volonté isolée, mais d'une communion. C'est peut-être là une invitation pour nous, ne pas chercher à tout porter tout seul, parce que de toute façon, quand nous faisons les comptes, nous voyons bien de qui nous avons hérité ce qui nous permettait d'agir. Nous savons de qui nous sommes redevables. Ces mots ne sont pas là pour nous contraindre à porter tout seul, mais pour nous ouvrir à ce qui nous dépasse et ce qui nous traverse. Et si nous n'y arrivons pas tout seul, quelqu'un nous y aidera, comme d'habitude. Le texte se conclut sur une promesse. Ils en avaient besoin. Parce qu'après les avoir douchés à froid, comme il le fait au début, ils n'auraient probablement pas suivi jusqu'au bout, ce qu'ils ne seront pas capables de faire d'ailleurs, mais ils n'auraient pas continué, ils auraient probablement quitté Jésus peut-être à ce moment-là. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même, il en fera de plus grandes. Audacieux, hein, déroutant même. Comment pourrions-nous faire de plus grandes œuvres? Ça pourrait être un sujet pour les confirmants, mais c'est un peu raide comme question. Donc, et puis, ils n'ont plus que 3 semaines. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, ce serait trop dur. Mais ne riez pas, si je donnais le sujet à tout le monde, personne ne s'en sortirait correctement, ni moi, ni vous. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin encore? Il n'y a pas zéro réponse à cette question. Ce n'est pas l'absence de question qui est embêtante ici, c'est le foisonnement de possibilités, l'embarras du choix. Peut-être qu'en comprenant que l'essentiel n'est pas dans l'exploit, mais dans la continuité, on comprend un petit peu mieux ce qu'on se sent capable de faire. Si on reprend l'image du collier, les œuvres dont il est question sont celles qui font vivre. Il n'y a pas besoin d'en chercher d'extraordinaire. Accueillir, relever, réconcilier, espérer. Et ces œuvres ne sont pas réservées à quelques-uns. Elles sont ouvertes à tous ceux qui entrent dans cette dynamique de confiance. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors de cette chaîne, ce collier d'une perle à l'autre comme ça, et qui recommence sans cesse? Peut-être que cette invitation ne se laisse une invitation à ne pas nous laisser troubler, pas laisser nos troubles, et ils nous arrivent tous, envahir tout l'espace, non pas en les niant, mais en leur opposant une confiance active dans tout ce que nous vivons, et en particulier quand c'est difficile. Ensuite, peut-être cette fameuse image de la maison aux nombreuses demeures, peut-être une manière de dire que la vie a un sens dans l'idée de parcourir d'une étape à l'autre et de recommencer encore et encore, dire que chacun peut avoir une place et que rien n'est perdu, et que si on a manqué un cycle, on peut recommencer au suivant. C'est peut-être ça l'espérance du rabâchage de possibilités quand on en a raté une. Et puis il y a cette compréhension du chemin, non pas une route toute tracée d'avance, on sait bien que c'est pas comme ça, mais une manière d'être au monde inspiré par une présence qui ouvre à la vérité et à la vie. Mais une fois que c'est ouvert, il faut avancer vers elle, la saisir et en faire quelque chose. Dans nos vies un peu cloisonnées, fragmentées, incertaines, traversées de doutes, et c'est bien normal, ce texte ne propose pas de réponse toute faite. Le flou du style de Jean nous l'interdit. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a écrit de manière aussi générale. Il propose plutôt une orientation. Il nous dit en quelque sorte, avancez, même sans tout comprendre, mais qui comprend tout? Faites confiance, même au cœur du trouble, cherchez la vie là où elle se donne, dans la relation, dans l'accueil, dans une fidélité qui sait recommencer sans se lasser d'une perle à l'autre, sans s'arrêter. Nous découvrons alors que le chemin ne se trouve pas seulement devant nous, il y a de la route à parcourir bien sûr, mais il se dessine aussi déjà sous nos pas, au fur et à mesure, une perle après l'autre. Amen.